cours de philosophie de la nature de Père Marie-Dominique Philippe, le 3 novembre 1999, à Saint-Jonas.
Nous étions donc restés tout à fait au point de départ, l'interrogation sur le devenir différent de l'art et du vivant et de la nature. Je crois que c'est la première chose qui nous permet de vraiment poser le problème de la philosophie de la nature. Vous voyez, si là on voit, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, pour voir la différence entre la science moderne et la philosophie. La philosophie ne peut pas s'abstraire de l'homme. Tandis que la science, au contraire, dans son abstraction, s'abstrait de l'homme. Autrement dit, c'est une abstraction mathématique, de type mathématique qui continue. Dans les mathématiques, on fait abstraction complète de l'homme. Du bonheur de l'homme, de ce qu'est l'homme, de l'acte volontaire. Tandis que là, pas du tout. Dès que vous regardez cette distinction de ces trois devenirs, vous, tout de suite, vous les faites en fonction de l'homme, puisque l'art, c'est l'homme qui construit son monde. Quand je prends art au sens très très fort, techné, hein, la réalisation d'un autre univers, ou le prolongement d'un autre univers que celui qui nous est donné. Je fais un milieu différent. Le milieu que nous avons ici, ça n'a pas poussé tout seul. C'est un milieu artistique. Et ce milieu artistique joue. C'est évident. Et on ne fait pas un même cours si on est dans un lieu comme ici, qui est assez agréable, que quand si on ferait un cours sous la pluie de la tente, avec le vent qui sonne, la pluie qui tomberait dessus, on serait obligé de faire beaucoup plus d'attention à l'atmosphère extérieure. Là, on est à l'abri. Et on est à l'abri pourquoi? Pourquoi sommes-nous à l'abri? On est à l'abri pour pouvoir penser plus librement, pouvoir réfléchir davantage. Si je ne suis pas à l'abri, on est constamment dérangé par un ouragan. C'est assez solide, ça, quand même. Pas grand danger qu'un ouragan puisse enlever tout ça. On est à l'abri aussi, s'il fait sombre, allume l'électricité et continue son travail. Dès qu'autrement, on serait obligé d'arrêter. Il fait sombre, on arrête. Donc, c'est pour nous donner une plus grande autonomie au niveau de la pensée. Grâce à l'art, l'homme est beaucoup plus libre, et liberté beaucoup plus profonde. Par l'art, je dompte, je domine le conditionnement si fort de la nature. Et vous voyez, j'en prends exprès, de la nature, ce conditionnement de la nature. Donc, j'ai tout de suite cette distinction qui se fait entre quelque chose qui provient de l'homme, quelque chose qui ne provient pas de l'homme, qui s'impose à lui. La nature s'impose à moi. Et dans cette nature qui s'impose à moi, il y a quelque chose en moi qui est source de vie. À l'intérieur, non pas de l'art. Je peux me servir de l'art. Du ballet, c'est Martin Porres, pour sa sanctification. Moi, je ne vous demande pas de venir au cours avec un ballet. Non, vous venez avec ce qu'il faut pour écrire, pour vous aider à penser. Et votre stylo, votre pic, votre papier, et là, au service de votre pensée. Tout ça, ça fait un milieu particulier. Vous n'auriez pas de quoi écrire. Vous avez dû crier énormément votre mémoire. Mais c'est difficile, hein. Parce qu'on perdrait beaucoup. Mais votre mémoire serait beaucoup plus forte. Depuis qu'on a des stylos, depuis qu'on a du papier, on n'a pas besoin de beaucoup d'avoir une mémoire très forte, puisque c'est inscrit sur un papier. Donc on le suit, on s'en sert. On distingue, vous voyez, le milieu naturel, le milieu artistique. Ça, une distinction humaine. Et le milieu vital. Tout de suite. C'est une distinction que tout le monde peut faire. Si je reconnais que de fait, je dépends de mon milieu, je vois que cette dépendance est très différente. La dépendance de l'art, je peux choisir. Si une culture ne me va pas du tout, je peux essayer de trouver autre chose. Et si on avait construit quelque chose qui n'était pas du tout pratique, on aurait demandé à l'architecte de détruire ça et de faire autre chose. On est tout le temps dépendant de la nature. Il y a des choses comme ça. De temps en temps, un architecte peut faire un excellent plan et puis s'aperçoit que le milieu sur lequel il va construire n'est pas... On n'a pas permis de construire. Les exigences de la nature. C'est pas l'art. L'art dépend de la nature. Et l'art permet de comprendre ce que c'est que la nature. Très curieux. Parce que l'art dépend, surtout l'art de construire, dépend de la nature. Si on construit dans un lieu d'alluvion, au Solchoir, on avait construit le couvent. Et ça m'intéresse toujours, l'architecture. Là. J'ai essayé de comprendre le plus de choses possible. On avait construit le couvent dans le lit de la Seine, un très vieux lit de la Seine. C'est passé depuis très très longtemps, la Seine maintenant. Ça avait été ça, il y a des siècles et des siècles. Et à 20 mètres de là, on avait le roc. Je me suis dit, mais pourquoi construire là, alors que le roc était là tout proche? C'était la fantasia de l'architecte. Parce qu'il fallait creuser des fondations alors dans le ciment, qui faisaient qu'il y avait autant en dessous du sol, sous ce terrain, au-dessus. Évidemment, c'est intéressant de voir ça, mais... Ça coûte cher. Parce que l'argent enfoui pour faire des colonnes. La nature. Ces alluvions, c'est la nature. C'est le pantareil, c'est le cas de le dire. Alors le pantareil de la Seine est assez long. Mais non, celui de la Loire est encore plus long. Et puis il y a le pantareil des torrents. Pas tout à fait la même chose. Parce que Héraclite, ça a commencé par le pantareil, tout coule, tout coule. C'est intéressant, la physique a commencé par ça. Puis Aristote, c'est beaucoup plus affiné. Ça a commencé par l'art. Et c'est là où vous voyez combien Aristote est humain. Parce que toute sa connaissance spéculative est commandé par sa connaissance pratique de l'homme, sa connaissance de philosophie pratique. Et la scolastique, ayant commencé par la théologie, ne commence pas du tout par le point de vue pratique, commence par le point de vue spéculatif. Et on ne voyait pas que c'était quand même quelque chose de terrible au point de vue philosophique, de commencer par la théologie et de retirer de la théologie une philosophie. Et donc c'était d'abord une connaissance spéculative. Et c'est pour ça qu'en scolastique, la philosophie de la nature était première. Et avant ça, c'était la logique. Je ne pouvais rien dire sur la philosophie de la nature, alors c'était la philosophie de la nature. Et on prenait la philosophie de l'art, on n'en parlait pas, on faisait les autres après. On ne peut pas comprendre la philosophie de la nature d'Aristote sans comprendre le point de vue de la philosophie de l'art. Et voyez, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, nous ne pensons pas du tout à l'art quand nous faisons de la science physique. Non. Et c'est intéressant de voir ça. Le début, la philosophie, la science est indépendante, puisqu'elle est abstrait de l'homme, est indépendante de la philosophie pratique. Alors que la physique d'Aristote n'est pas indépendante de la philosophie de l'art, donc d'une philosophie pratique. Je vous dis ça, c'est pour que je crois que c'est très très important. Vous voyez, on est tout de suite en affrontement, question critique, la physique d'Aristote avec la physique moderne. Non. Reprenons tout le problème philosophique d'Aristote et comprenons la philosophie de l'art avant, puisque les analogies de l'Aristote sont toujours artistiques, parce que pour lui, la philosophie de l'art est plus connue pour nous que la philosophie de la nature. Et je comprends la philosophie de la nature en me servant de la philosophie de l'art qui m'éclaire. La philosophie de l'art n'éclaire pas tellement la science physique. Je ne crois pas du tout. La science physique a besoin des mathématiques. Ça, c'est évident. Pour pouvoir se formaliser, se préciser. Mais pas du tout de l'art. Tout à fait autre chose. Alors ça, c'est des petites choses très importantes qui montrent le conditionnement. La philosophie d'Aristote, de la philosophie de la nature d'Aristote, reste conditionnée par l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait la philosophie. Et l'homme fait tout de suite, en face du devenir, parce que lui-même est en devenir, je suis en devenir. Et en moi, il y a trois devenirs. Je fais la synthèse, hein. C'est excellent. La synthèse du devenir physique, je dépends du monde physique. Les tremblements de terre me le rappellent. Et les inondations me le rappellent. Je suis dépendant du monde physique. Et je porte en moi ce conditionnement physique. Mes os, ma chair. Conditionnement de ce monde physique. Mon sang. Conditionnement de ce monde physique. J'ai toute une évolution qui dépend du monde physique. Je suis moi-même un petit microscope. Monde physique, monde du vivant, monde de l'intelligence. J'ai trois devenirs en moi. Et donc, je suis bien obligé, si je veux aller jusqu'au bout de la connaissance de l'homme, de connaître qu'est-ce que c'est que le monde physique, qu'est-ce que c'est que le monde du vivant, qu'est-ce que c'est que la métaphysique. Oui, c'est important de voir ça. Je vois l'être. Le devenir, l'être dans le devenir physique, l'être dans le devenir du vivant, l'être dans le devenir intellectuel. C'est impliqué dedans. Je porte en moi ces trois devenirs. Et c'est important. Alors, premièrement, la distinction des trois devenirs. Et je laisse tomber en disant le devenir de la vie, le devenir de l'intelligence, nous verrons ça plus tard. Je regarde le devenir physique. C'est mon premier contact avec le physique. Le pantareil, tout coule. Et le vivant seul se repose. Pas de repos dans le devenir physique. Intéressant, pas de repos. Donc, il y a quelque chose de juste, un pantareil, un d'Héraclite. Pantareil, tout coule, tout change, tout change. Dans le monde physique, tout me change. Et mon corps change chaque année. il se transforme complètement. C'est le corps d'un vivant, je sais bien, mais ce corps d'un vivant, il est lié au monde physique. Mon monde vivant est lié au monde physique par mon corps. Donc, quand j'étudie la philosophie de la nature, j'étudie un fondement radical de l'homme. Si les anges faisaient de la philosophie, ils ne feraient pas de physique. C'est propre à l'homme. Les anges pourraient faire une philosophie de l'art. Angelico. C'est assez angélique. Tandis que pour nous aujourd'hui, c'est plutôt démoniaque de temps en temps. Pas toujours, heureusement. Il y a un art démoniaque, c'est sûr. Tandis que la physique, elle en... Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'Apocalypse, la terre vient au service, au secours de la femme. Tiens, pas l'art, la terre. Parce que le démon est dépaysé quand il s'agit de la physique. Hein, complètement dépaysé. C'est un domaine qui lui échappe. Il regarde ça en disant, ça c'est pour les pygmées. Pygmées au point de vue de l'intelligence. Ces petits pygmées des hommes. Au point de vue de l'intelligence. Ils se croient intelligents, mais ils ne sont pas très forts. Ils restent dans la relation. Tout le temps. Ils tombent tout le temps dans la relation. Alors qu'ils ne contemplent pas beaucoup. Ils ont de la peine à contempler. Ils l'entendent. Et le démon est pour la puissance qui domine le physique. Il y a un art qui domine le physique, qui s'écarte de l'homme, qui domine le physique. Le danger alors que cet art se retourne contre l'homme. Il devient tellement puissant qu'il se retourne contre l'homme. Est-ce que c'est pour l'homme d'aller toujours plus vite? Est-ce que c'est pour l'homme? Voyez le nombre de massacres qu'il y a par an. Vous avez vitesse. C'est pas tellement pour l'homme. Il doit y avoir quelqu'un qui est là derrière. Est-ce que c'est le bon ange gardien? Intéressant. Et ça fait partie du point de départ, ça, vous voyez, de notre introduction. De voir que réfléchir sur la physique, c'est typiquement humain. Et si on ne fait pas ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est typiquement humain. La philosophie pratique, elle est commandée par l'esprit. La morale, la politique. Et le démon peut agir directement sur mon directement. Il peut agir sur le milieu de mon intelligence. Tandis que quand j'étudie la physique pour elle-même, ah, ça, c'est autre chose. C'est mon corps. Mon corps est lié à la physique. Alors, qu'est-ce qui caractérise le mouvement, le devenir artistique? C'est qu'il est commandé par mon intelligence, par mes idées. Ce sont mes idées qui commandent ce devenir. Je suis le maître du devenir artistique. Et donc, l'art, c'est pour ma gloire. C'est pour mon bene vivere. C'est pas le vivere, c'est le bene vivere. C'est pour ça que l'art ne peut se développer que quand il y a un certain bien-être. C'est dans le bene vivere que l'art se développe le plus magnifiquement possible. C'est dans les fauteuils, dans les bonnes tables. Il y a un art culinaire. Il y a un art pour avoir du vin qui soit bon, pas de la piquette. C'est très curieux, vous voyez. L'art est pour le béni vivere. C'est pour ça qu'il est le maître de la culture humaine, qu'il joue là-dedans, là, pleinement. C'est le bene vivere. tandis qu'au contraire, le vivere, ah, lui, dépend de la nature. Il dépend de la nature. Il faut que je fasse grande attention. Et on voit bien ça, parce que les premiers animaux qui sont disparus de notre globe, de notre... c'est les animaux qui faisaient peur à l'homme. Alors, ils ont disparu, ceux-là, parce qu'il ne faut pas avoir déjà trop peur. On a déjà assez peur par les orages, par les inondations. On a assez peur de tout ça. Mais tous ces animaux-là, on les a chassés. Les gros animaux. Ils restent dans des forêts tropicales. Le plus loin possible de la civilisation. Et dans les mers, c'est la même chose. L'art, l'homme est maître de l'art. Il ne se développe que grâce au bene vivere de l'homme. Le devenir physique, il s'impose à moi comme quelque chose d'extérieur à moi. D'où peut provenir la violence. Le monde physique est un monde qui peut être violent. Et qui maintient la violence. Parce qu'il est d'extérieur. Qu'est-ce qui est violent? C'est ce qui ne vient pas de ma nature. Ce qui est extérieur à la nature. C'est l'autre de la nature. C'est violent. C'est ça la violence. La nature n'est pas le vivant. Vivant, c'est l'immanence dans la nature, pour moi. Parce que je n'ai pas une vie séparée de mon corps. Je n'ai pas une vie séparée de la physique. La physique est donc, pour moi, mon premier lieu. Je suis obligé d'avoir comme lieu un monde physique. Parce que j'ai besoin de respirer. Et la respiration me met en contact avec le monde physique, l'air. En verrant ça, en voyant les éléments du monde physique. Vous voyez, c'est curieux, le monde physique est plus proche de moi, d'une certaine manière. Il est fondamental. Je ne peux pas abstraire l'homme du physique. L'idéalisme voudrait beaucoup, mais c'est le propre de l'idéalisme, c'est abstraire l'homme du physique. Je crois que c'est une très bonne définition de l'idéalisme. Abstraire l'homme du physique. Naturellement, je suis dépendant du monde physique. Je suis dedans. Et le monde physique me domine. Mais je le domine aussi. C'est une petite vengeance. Grâce à l'art. Et par là, je peux dominer mon physique. Et je l'ai dominé grâce au feu. J'ai capté le feu. Prométhée. J'ai capté le feu pour pouvoir forger. Pour pouvoir dominer le monde physique. Là, il me paraissait le plus violent. Et je me suis fait des armes pour lutter contre la dureté du monde physique et la dureté du monde des vivants. Vous voyez qu'il y a donc un lien très fort entre la physique et l'homme. Ça explique, vous voyez, comment la science moderne qui sépare la physique, du monde de la matière, du monde physique. La science se sépare du monde physique. Elle réintroduit la physique, mais d'une autre façon, toute différente. Ça nous fait comprendre comment l'idéalisme est nourri par les sciences modernes. Et nous vivons dans ce monde-là. C'est pour ça que c'est important. Alors, quel est le caractère propre du physique, du devenir physique? Le devenir artistique, il vient de l'homme, il est humain. Le vivant, ah, il est immanent à l'homme. Le physique, il est aussi immanent, mais pas totalement. La mort désigne la séparation du monde physique du monde du vivant. Et la mort existe. Il ne faut pas la nier. Et c'est d'une certaine manière, vous voyez, d'une certaine manière, la vengeance du monde physique sur le monde vivant. La mort se définit par le vivant. Elle ne se définit pas par le monde physique. C'est la tentation aujourd'hui de définir la mort par le monde physique. C'est pas vrai. La mort, c'est l'antithèse du vivant. Et le monde physique continue. Et d'une certaine manière, il a besoin de la mort, le monde physique. Parce que si jamais les habitants de la Terre de partir pour autre part, il y aurait beaucoup trop de monde. C'est ça. Si tous les ancêtres vivaient depuis Adam, pauvre Adam, on dirait c'est lui, c'est à cause de lui qu'il y a tout ça. Hein. Et on n'aurait plus de place. La mort, elle nettoie le monde physique, elle permet au monde physique de pouvoir vivre et de continuer de nouveau vivant. C'est extraordinaire de voir ça. Hein. Là, on comprend très bien, du point de vue religieux, ces philosophies de l'Inde, la roue. Tout tourne et tout doit tourner. Et qu'il faut ça pour qu'il y ait un équilibre constant. Et qu'il y ait une place pour les nouveau-nés. Il n'y aurait plus de place. Je regarde alors qu'est-ce que c'est que le physique, le devenir physique. Le devenir physique n'est pas violent. Première constatation. Il n'est pas violent. Il émane du monde physique. Il vient du monde physique. Tandis que l'art, toujours quelque chose d'un peu violent. D'un peu violent. Et l'art moderne est très pris par cette violence. Mais l'art achève la nature. L'art achève la nature. Achève le monde physique. Et en l'achevant, il peut le détourner de sa vraie finalité. Alors là, il est violent. Il devient violent contre la nature. On a donc le devenir physique qui n'est pas un devenir violent, qui est un devenir des parties à l'égard du tout. Si le devenir le monde physique n'est pas violent, il faut donc qu'il y ait un principe immanent au monde physique. Autrement, il serait violent. Dans le monde physique, il y a un premier qui est toujours le devenir. Celui qui vient de la potentialité de la matière. Et c'est ce qui fait comprendre que le devenir physique est très particulier. Vous voyez, le devenir artistique est intelligible.
directement. Le devenir physique ne l'est pas. Il est caché. Je ne vois pas tout de suite comment le devenir physique peut exister. Il existe. Il est. La nature est toujours en mouvement. Et il faut donc que ce mouvement soit naturel. S'il était violent, il ne serait pas toujours en vivant. Il y aurait quelque chose qui l'arrêterait. Parce que le devenir artistique est un devenir vivant, intellectuel, il a des repos. Le devenir physique est toujours en mouvement. Donc, il provient de l'intérieur. C'est la première chose qu'on doit se comprendre, cela. Il vient de l'intérieur. Et par le fait même, il y a quelque chose qu'il faut découvrir. Il y a donc un principe immanent au devenir physique. C'est pour ça que je dis que ce devenir n'est pas violent. Il y a un principe immanent. Et ce principe immanent, je dois essayer de le découvrir. Je me pose la question, tant que je ne découvre pas ce principe immanent, le devenir physique ne peut être que décrit. Il n'est pas analysé. Et donc, il n'est pas scientifique pour moi. Il est purement descriptif. Je comprends très bien comment le monde, la philosophie de la nature a commencé par la description. Description très belle, très intéressante, mais c'est une description. Il a fallu Aristote, qui là est le premier, analyser la nature. Comment l'a-t-il analysé? Il l'a analysé par les interrogations. Qu'est-ce que c'est que ce devenir physique? C'est en analysant ce devenir physique que j'essaie de découvrir son principe. Et je dis tout de suite que ce principe interne fait que la nature a une vie qui n'est pas du tout la vie du vivant, mais qui est quand même quelque chose d'analogue, principe interne. Et ce principe interne, il est dans la passivité. La nature, le mouvement physique, n'est possible que parce qu'il y a dans la nature une potentialité radicale. Qu'on appelle la nature matière. La nature matière, c'est cette possibilité du monde physique de changer et qu'il se change lui-même. Le monde change tout le temps. Mais ce monde physique est déterminé. Il y a à la fois une capacité de changer tout le temps et en même temps il est déterminé. Il est déterminé par lui-même. Il n'est pas déterminé par l'art. Il est déterminé par lui-même. Il est déterminé radicalement. Je vois donc tout de suite qu'il y a deux principes internes. Un principe de détermination au niveau physique, un principe d'indétermination, de capacité de changement. Le monde physique, le devenir physique, implique, puisqu'il est intérieur et pas violent, implique un principe radical de passivité, de transformation. Et il implique un principe radical de détermination qui varie, qui est différent. y a donc deux principes immanents. La nature matière, c'est comme ça qu'on l'a appelé, la nature forme. Nature forme, nature matière. Tout de suite. Je ne peux pas ramener le monde physique à un seul principe. Il y a tout de suite la dualité. Et ça, c'est très caractéristique du monde physique. Le monde du vivant se ramènera à l'unité. Mais une unité qui doit lutter contre le principe radical qui unit le devenir physique au devenir du vivant, la matière. Mais le vivant a un principe unique. La matière n'est pas principe de vie. La matière est plutôt l'inverse, principe de mort. À cause du poids de sa passivité, de sa matérialité, de sa potentialité, et le principe de mort. Au contraire, ce qui est pour moi source de potentialité de changement, la matière, est quelque chose de plus radical que la forme, que la détermination. C'est dans ce sens-là que tout le monde physique comme monde physique, est un monde qui s'use, un monde qui se dégrade, un monde qui, d'une certaine manière, ne peut pas durer indéfiniment. C'est le propre du monde physique, ça. Le monde physique se dégrade. Le monde du vivant s'anime, se relève. Le monde du devenir il faut saisir ces deux aspects-là la détermination l'indétermination ce qui fait comprendre qu'en physique il y aura toujours comme deux principes un principe de détermination un principe d'indétermination un principe de détermination actif dans la détermination, un principe passif, matériel. Ce fait que si je laisse à lui-même de regarder ce qu'il y a dans mon physique, j'aurai la tentation de dire que mon physique se dégrade. Il n'évolue pas du tout. Hein. C'est pas le monde physique qui évolue, c'est la vie. La vie évolue, mais le monde physique non. Le monde physique il a un poids vers la corruptibilité, un poids vers l'indétermination. Et coûte que coûte, il indétermine tout. C'est extraordinaire pour ça. La nature laissée à elle-même, n'est-ce pas? Ne s'améliore pas. Qu'est-ce qui s'améliore? C'est le vivant. Le vivant cherche toujours à s'améliorer. Et le vivant, il commence dans le monde physique par la détermination du monde physique. Autrement, il ne pourrait pas. Il serait tout de suite englobé